Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Bon matin, Michel.
Salut Marc-André, j'ai une solution pour cette petite ville. Faites venir deux, trois ours polaires. Tu vois que on va débarrasser assez rapidement.
Ils vont crier le nom de l'animal, je pense, quand ils vont les voir arriver.
Ils vont se payer tout un lunch ou ils vont s'en retourner, ils vont avoir peur puis ils vont retourner dans leur habitat naturel.
Ouais, c'est ça. Remarque que c'est peut-être le genre de mot.
Mais il y a des questions.
Oui, ben c'est ça, il y a des questions environnementales, effectivement, à se poser là-dessus. Remarque que c'est peut-être le genre de mots qui échappe de la bouche de Claude Julien quand il voit le comportement de Drouin et Domi de ce temps-là.
Oui, mais le comportement, c'est pas compliqué. Quand que des joueurs sont en difficulté, qui ne produisent pas, qui sont ben chums, c'est que tu cherches toujours à lui remettre la rondelle.
Ouais.
Et ce qu'on voit, c'est que Domi cherche toujours à alimenter Drouin pour le sortir de sa torpeur, et Drouin lui remet l'appareil. Donc, il n'y a rien qui se passe à ce moment-là, des jeux impossibles. Au lieu de garder ça simple, là, on va tenter de passer la rondelle dans le dos d'un adversaire, en déjouer un trou pour permettre à l'autre de se découvrir près du but. Donc, ça mène à rien. Et le meilleur remède, c'est de les séparer. Et de les ramener par la suite lorsque les choses auront retrouvé leur rythme normal. Mais pour l'instant, je suis surpris que Claude Julien, qui n'hésite pas des fois, même s'il est un coach très conservateur, va apporter des changements sur ses duos. Et je pense que l'heure est venue pour relancer Edomé et Drouin, de les séparer. Mais on les place avec qui? Est-ce que c'est Drouin qui a besoin de Domi? Ou c'est Domi qui a besoin de Drouin?
Ah, c'est Drouin qui a besoin de Domi, d'après moi.
Moi, mais les deux sont des passeurs. Dans le cas de Drouin, c'est tout. Il y a un lancé, il s'en sert jamais. Ou lorsqu'il s'en sert, il rate le filet. donc, c'est pas un marqueur, c'est un passeur. Mais qui sont les marqueurs chez le Canadien? Dans le cas de Domi, là, mettons qu'on relègue, on enlève Drouin de son trio. Mm-hmm. Qui va prendre sa place? Moi, je pense qu'il y a un seul joueur qui peut marquer des buts, qui peut jouer avec eux, puis oubliez-moi Joel Armia puis ces gars-là, là, c'est Brendan Gallagher.
Ouais, t'as raison.
Tu places Gallagher avec Domi, je pense que Domi va retrouver sa fougue, ils vont se retrouver tous les deux près du filet. Il va se marquer des buts, j'en suis convaincu, parce que Gallagher, c'est un peu le genre de gars qui va remettre sur le droit chemin un coéquipier qui est en panne offensive. Mm-hmm. J'y vais avec Gallagher. Mais Drouin, je le place avec qui?
Ouais,
il faut que Drouin puisse... Tu le places avec... Et tu penses surtout au joueur de centre. Là.
Ouais,
tu vas le placer avec Philippe Dano.
Mm.
Ouais. Dano est surtout utilisé contre les meilleurs trios offensifs. Si tu mets Drouin dans cette situation-là, qui a joué contre un meilleur trio offensif, on sait que de temps en temps, les fils se touchent lorsqu'il est question de défensive. Dans sa tête, là, il voit pas ça. Là. Ça fait pas partie encore de son ADN, le jeu défensif. Fait que là, on s'est dit, OK, Dano, il va travailler, Tatar, il est créatif, il va avoir des chances de marquer. Sauf que lorsqu'on enlève les charges défensives au trio de Dano, puis le placer avec le jeune Kotkaniemi, s'il accepte de servir de son lancer, Kotkaniemi, là, avec des passes savantes, met souvent ses coéquipiers dans des occasions exceptionnelles, mais actuellement, son allié finlandais est incapable de scorer des portes de grange ouvertes. Fait que là, ce serait peut-être une bonne chose. Moi, si j'ai à replacer Drouin quelque part, je l'amène avec Kotkaniemi.
Ouais, c'est pas fou. J'aime ça.
Parce que tu peux pas l'envoyer avec Dano, parce que là ça marchera pas. Là. Il y a quelque chose. Tu peux envoyer Armia avec Tatar et Dano, j'aurais pas de difficulté. Tu t'as déplacé Drouin, c'est avec Kotkaniemi. Et je ne suis pas le coach du Canadien. Mm-hmm. Loin de là, je n'ai pas la prétention d'avoir ses compétences. Mais je vois difficilement Philippe Dano travailler avec Drouin lorsqu'il aura à affronter les meilleurs trios adverses, c'est mon seul point d'interrogation. Parce que dans le fond, là, il n'y a pas beaucoup de cartes à jouer, Claude Julien, avec ses joueurs. Là.
Ouais, c'est
des joueurs dont le talent explose, là, c'est pas les attaquants du Lightning de Tampa Bay. Tu peux effectuer des permutations au sein des trios, puis le talent va toujours l'emporter. Mais chez le Canadien, il y a du talent limité. Il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Fait que c'est pas facile pour le coach de conjuguer tout ça, parce que des combinaisons possibles, là, il n'y en a pas.
Non, exact. Il y en a toujours un qui suivra pas sinon. Parlons de football.
Et voilà. On vient de régler tout ça. Je vais te raconter ce qui s'est passé lundi matin, 7h.
Oui, OK.
Lundi matin, 7h, les joueurs des Saints de la Nouvelle-Orléans sont convoqués par leur coach Sean Payton pour un premier meeting de préparation en vue du match de dimanche contre les Eagles de Philadelphie et Saint Nick Foles. Parce que là, c'est les Eagles sont redevenus l'équipe à battre, l'équipe que personne ne veut affronter, alors que les Saints représentent probablement le joyau de la conférence nationale.
Ouais.
Fait qu'il dit, comment je vais faire pour motiver mes joueurs? Écoute bien ça. Les joueurs sont tous dans la grande salle de réunion qui ressemble à une salle de cinéma, parce que c'est assez particulier. C'est pas une salle de meeting, une salle de conférence avec une table autour, là. C'est une salle de cinéma avec les joueurs ont tous comme dans les cours d'université, une petite tablette sur laquelle ils peuvent prendre des notes, regarder leur iPad, puis ils regardent ce qui se passe sur l'écran géant. Et Sean Payton, le coach, arrive avec deux bodyguards. Trois bodyguards.
Ah oui?
Trois bodyguards. Il y a le trophée Vince Lombardi, qu'ils ont gagné, je pense que c'était en 2009, si ma mémoire est fidèle. Et en plus, sa bague du Super Bowl. Et en plus, 250 000 $ en cash. Il y a une boîte, là, ouverte. 250 000, je pense, c'est en coupure de 10. Ça fait une grosse valise, hein?
Pense ben, mettons, je ne l'irais pas, moi, cette valise-là.
C'est une valise. Tu dis 250 000 $ pour un joueur de football qui en gagne 4, 5, 6 ou 7 millions. C'est des peanuts. Sauf que le coach dit, j'avais fait ça lors de notre dernière conquête du Super Bowl. Et il y a seulement trois joueurs qui sont encore avec l'équipe. Et je me souviens que l'impact que ça a eu sur les joueurs, parce que même s'ils gagnent les millions, c'est rare qu'ils voient dans leur poche, ou dans leur maison, ou dans leur vie quotidienne, un paquet de 250 000 comme ça qui leur saute aux yeux. Ils disent, voici les gars, ça, 250 000, c'est un peu plus que les 201 000 $ que vous pouvez gagner en bonus prévu par l'entente collective des joueurs avec la NFL si vous gagnez le Super Bowl. On gagne le Super Bowl, c'est ça que vous allez avoir comme cadeau, là. Puis ça, là, ça, vous pouvez avoir du fun avec ça, c'est pour dépenser.
Ouais.
C'est de l'argent de poche. Fait que là, si vous gagnez le Super Bowl, si on gagne nos matchs, voici ce que vous allez tuer en plus d'avoir, regardez ma bague. Les gars regardaient la bague. Ils disent, encore une fois, ça a eu un effet. C'est un effet bœuf. Les joueurs ont eu du fun. Lorsqu'ils ont vu arriver les trois bodyguards, ben, ils n'étaient pas impressionnés par les bodyguards, parce qu'il y a à peu près les trois quarts d'équipe qui étaient plus gros que les bodyguards de même. Mais eux, ils étaient armés pour protéger le 250 000. Ils arrivent avec le coach. Tu sais, dans le fond, là, il faut que tu sois imaginatif. Jacques Demers a déjà fait des affaires semblables dans des meetings avec ses joueurs. Il n'a pas amené de bodyguards avec l'argent. Mais il trouve des façons de réunir les joueurs autour d'une cause commune, de créer un tout petit peu un enthousiasme, parce que tu enlèves la pression à ce moment-là, tu crées quelque chose, puis tu files avec ça durant le reste des séries éliminatoires. En tout cas, j'ai hâte de voir si la façon de Sean Payton, il essaie ça pour la deuxième fois dans sa carrière, d'amener ses joueurs au plus haut niveau avec ce genre de préparation-là, ça va être intéressant, mais c'est vraiment drôle de voir de quelle façon on s'y prend. Moi, je trouve que bravo, Sean Payton, c'est le genre de choses que j'aimerais voir puis entendre plus souvent.
Exactement, c'est toujours intéressant de voir comment il se renouvelle. Justement, il y en a peut-être qui pourraient prendre exemple sur Sean Payton dans les nouveaux coachs qui se sont trouvés une job dans la NFL.
Mais moi, je suis ébahi de voir les dossiers de plusieurs postes qui étaient disponibles dans la NFL se régler quasiment dans un claquement de doigts. En moins d'une semaine, presque tous les jobs ont été comblés. Et les Jets de New York sont allés chercher Adam Gase la journée qui a été congédiée par les Dolphins de Miami. Puis moi, je me rappelle fort bien d'avoir lu le journal de Miami le matin du congédiement. On dit, il sera pas en chômage très, très longtemps. C'est un joueur, c'est un coach qui a une très bonne réputation. Et dès le lendemain, les Jets l'ont contacté. Puis il est devenu coach des Jets de New York. À Cleveland, on se préparait à avoir un nouveau coach, mais on a engagé un gars qui n'avait absolument aucune expérience, qui s'appelle Freddie Kitchens, qui était, lui, au début de la saison, entraîneur des demi à l'attaque. Puis à un moment donné, avec le congédiement, les changements qu'il y a eu chez les Browns de Cleveland, il est devenu le coordonnateur à l'attaque, et c'est avec lui que Baker Mayfield a connu une fin de saison incroyable. L'attaque des Browns s'est réveillée, puis on a décidé de lui donner le job. Ça n'a pas de bon sens.
Quand même.
Puis du côté des Broncos de Denver, on y va pour l'expérience. Vic Fangio, qui est actuellement le coordonnateur défensif des Bears de Chicago, qui a 60 ans, va avoir sa première chance d'être entraîneur-chef dans la NFL. Il va diriger les Broncos. Fait que je te le dis que, mais c'est la même chose qu'au niveau des joueurs. Il y a tellement de talent au niveau des personnels d'entraîneurs, ces gars-là qui mènent une vie de moine. Tu sais, tu parlais de Shane Payton. Ouais. Le nombre d'heures qu'un coach fait par semaine, la seule fois ou presque qu'il va coucher à la maison, c'est le dimanche soir. Puis samedi soir, juste avant. Il y a deux soirs qu'il va coucher à la maison. Lorsque le club joue à domicile le samedi, il va coucher à la maison. Mais lorsqu'il est sur la route, il couche à l'étranger, bien sûr. Mais il y a le dimanche soir. Le reste, là, les gars sont dans leur bureau à 5h30 le matin. Ils sortent de là à 9h-10h le soir. Il y en a qui rentrent même pas à la maison. Ils ont un lit au bureau, couchent au bureau. C'est des jobs de fou être coach dans la NFL. Oui, les vies de famille, là, oublie ça. Les madames sont aussi bien organisées parce que ça tient pas longtemps. Et puis la plupart se retrouvent dans des causes de divorce. Pas du genre de celle de Jeff Bezos, le propriétaire de d'Amazon. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est toute une vie. Ça semble très excitant de l'extérieur. Mais de l'intérieur, ça ne doit pas toujours être le fun.
Exact. Michel, si tu permets, on va se garder Gary Bettman pour demain.
L'animal.
Merci, Michel.
Je suis pas capable. Bonne journée.
Salut. Bye-bye. Merci, Michel Villeneuve, qui nous parle de sport tous les matins à 7h40.